Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres. La République tchèque fait partie des pays accusés par Amnesty International de vendre des armes et autres équipements comme instruments de torture. Le président Klaus critique le plan anticorruption de la Chambre de commerce américaine. Et puis du sport avec du tennis et puis la retraite, déjà la retraite de la jeune Nicole Vaidišová. Amnesty International dénonce les entreprises européennes, dont des entreprises tchèques, qui font commerce d'équipements de police et de sécurité conçus pour infliger la torture et d'autres types de mauvais traitements. Dans un rapport intitulé « Des paroles aux actes », Amnesty écrit notamment que la République tchèque a autorisé l'exportation d'entraves, d'armes à décharge électrique et d'aérosols de produits chimiques dans 9 pays où la police et les forces de sécurité avaient déjà par le passé utilisé des équipements de ce type pour perpétrer des actes de torture et d'autres types de mauvais traitements. Fin de citation. La République tchèque a été en 2009 le 5e plus gros pays producteur de véhicules automobiles selon les données fournies par l'Association de producteurs automobiles européens. La production européenne totale est passée sous la barre de 15 millions d'unités en 2009 et l'Allemagne est à l'origine de plus du tiers de cette production. Suivent l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la République tchèque en 5e position donc, avec 970 000 véhicules produits, ce qui représente une augmentation de 3,2% par rapport à 2008. Le président Klaus a exprimé des réserves sur les mesures anticorruption prônées par la Chambre de commerce américaine. Ces gens sont intéressés par les profits de leur compagnie. Ils l'ont assez prouvé ces 20 dernières années, a déclaré le président. Rappelons que la Chambre de commerce américaine compte plus de 500 membres, parmi lesquels des grandes sociétés comme IBM ou Microsoft. Et la semaine dernière, la Chambre avait décidé de former une équipe spéciale pour préparer un amendement à la loi sur les appels d'offres dans le cadre de la lutte anticorruption, un amendement qu'elle voulait soumettre à la Chambre des députés avant les prochaines élections législatives. Le festival de documentaires One World se termine jeudi soir, mais on sait déjà quels sont les films récompensés. Le prix du meilleur documentaire a été attribué à Ennemi du peuple, un film réalisé par le Britannique Rob Lemkin sur l'histoire récente du Cambodge. Le prix de la meilleure réalisation a été attribué au Polonais Paweł Lozinski pour son documentaire intitulé Chemo sur les traitements du cancer à base de chimiothérapie. Selon le porte-parole du festival, le nombre de spectateurs à Prague et en région devrait une nouvelle fois dépasser les 100 000 personnes. Un mot de tennis pour vous dire, je vous le disais en titre, que la joueuse de tennis Nicole Vaidišová a confirmé les rumeurs selon lesquelles elle mettait fin à sa carrière. La joueuse tchèque, ancienne 7e mondiale et 2 fois demi-finaliste d'un tournoi du Grand Chelem, avait reçu une invitation au tournoi de Miami, mais elle y aurait finalement renoncé en informant les organisateurs qu'elle annulait tous les événements prévus cette saison. Nicole Vaidišová n'a que 20 ans, mais elle se dit dégoûtée de ce sport sans plus aucun désir de compétition. Un mot sur la météo pour finir, avec ce jeudi jour de fête des Edwards en République tchèque, un ciel partiellement couvert, mais des températures en hausse entre 9 et 13 degrés pour les maximales. Le bulletin vous était présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. À 2 mois des prochaines élections législatives, les partis politiques se lancent dans la campagne électorale. Après le CSSD, c'était l'ODS mardi soir, ainsi que, en quelque sorte, les Verts, avec l'intervention de l'ancien président Havel, qui leur a annoncé leur soutien. La campagne électorale commence, tandis que le festival des films sur les droits de l'homme, Jedensviet, se termine demain, jeudi, mais nous vous proposerons un entretien avec la réalisatrice Anne Aguillon, venue présenter son film « Mon voisin, ce tueur ». Et nous évoquerons la situation critique de la dette publique tchèque qui a atteint un montant record, avant de terminer avec un entretien avec le professeur Alain Perob, venu à Prague encourager les chercheurs tchèques et européens à demander des fonds au nouveau Conseil européen de la recherche. Très bonne écoute à toutes et à tous. À un peu plus de 2 mois des élections législatives qui auront lieu les 28 et 29 mai prochains, les partis politiques en lice entament leur campagne électorale, tandis qu'une partie de la société civile qui prône le changement se mobilise. Alena Gebertova.
Nous votons pour les Verts, tel est le slogan de l'initiative présentée mardi par plusieurs dizaines d'intellectuels et artistes et soutenue par une figure de taille, Václav Havel. Vert depuis un certain temps déjà, l'ex-président a précisé à cette occasion.
Je déplore la façon dont nous nous comportons à l'égard de notre pays. Je déplore l'aménagement de notre paysage ainsi que la prolifération d'habitations dépourvues de toute conception. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur depuis toujours.
Les responsables de l'initiative soulignent aussi qu'ils ne veulent pas être une proie des partis qui ont entraîné la démocratie tchèque et l'économie nationale dans de graves problèmes. Pour eux, les Verts sont une garantie des idéaux de la révolution de velours de 1989. Pourtant, d'après de récents sondages, les Verts ne sont pas sûrs de dépasser les 5%, pourcentage minimal de suffrage permettant d'être représenté à la Chambre des députés, comme ils y sont parvenus pour la première fois il y a 4 ans de cela. En revanche, toujours à en croire les sondages, les deux nouvelles formations, Top 09 de Karel Schwarzenberg et Les Affaires publiques de l'écrivain et ancien journaliste Radek Jon, ont des chances réelles de franchir cette barre magique des 5%. Une preuve que la soif d'un certain remaniement de l'échiquier politique est actuellement plus forte que jamais au sein de la société tchèque. Ceci dit, c'est toujours le Parti social-démocrate, ČSSD, qui est crédité des plus fortes intentions de vote. Les socialistes devanceraient pour l'instant d'environ 8% leur rival numéro 1, le Parti civique-démocrate, ODS, principale formation de droite. Tandis que le ČSSD a présenté ses priorités de programme lors de son congrès le week-end écoulé, l'ODS a pour sa part officiellement ouvert sa campagne ce mercredi. On écoute son leader, Mirek Topolánek.
Nous présentons aujourd'hui notre groupe d'experts économiques qui est la suite du précédent Conseil économique national du gouvernement que j'avais fondé en tant que Premier ministre. Nous nous penchons d'abord sur l'emploi et sur les solutions en vue de l'encourager. Nous avons préparé à cette fin un programme de 12 points que nous présentons dès maintenant au public.
Même si l'on peut s'attendre à l'issue des prochaines élections législatives à la traditionnelle prédominance des deux principaux partis, le ČSSD et l'ODS, beaucoup d'observateurs estiment cependant qu'elle sera quand même moins importante que par le passé. Le président de la République, Václav Klaus, n'exclut pas d'ailleurs des tourbillons inouïs et imprévus de notre carte politique.
Le festival du film sur les droits de l'homme One World s'achève ce jeudi, mais d'ici là les projections continuent. Parmi les films projetés lors de cette 13e édition, Mon voisin, mon tueur, d'Anne Aguillon. Pendant 10 ans, la réalisatrice franco-américaine a enquêté au Rwanda sur les conséquences du génocide de 1994 et sur le lent et difficile processus de cohabitation entre les victimes et les bourreaux d'hier. Ce processus s'articule autour des tribunaux appelés Chacha. Anna Kubista a rencontré Anne Aguillon et lui a demandé pourquoi elle s'était intéressée à la question de cette justice.
Vous savez, ça s'est fait un peu tout seul. Il y a presque 11 ans maintenant, j'ai rencontré aux États-Unis plusieurs représentants de la justice rwandaise. Et le tout premier soir, ils m'ont dit, ils m'ont raconté ce qu'ils allaient faire avec les gars de Chacha, qui était encore un stade d'idée, enfin, plus ou moins. Et je me suis dit, oh, ça, c'est un film. Voilà. Et me voilà, plus de 10 ans plus tard.
Avec quatre films.
Quatre films, ouais. Je pensais pas que ça prendrait ce temps-là. Mais voilà, j'ai attrapé ce truc. C'est cette histoire qui m'a attrapée, quoi. Autant que moi, je l'ai attrapée.
Alors, ces tribunaux spéciaux que vous évoquez dans vos documentaires, dans vos films, c'est des tribunaux qui s'appellent Gachacha. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut, comment oui. On peut le traduire et exactement à quoi ça correspond?
Alors, les Gachacha. Gachacha, en fait, ça veut dire herbe, achacha. Et donc, les Gachacha, ça veut dire la justice sur l'herbe. voilà, ça c'est la définition, enfin la traduction, définition du mot. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Rwandais ont mis en place ce système qu'ils ont basé, je dirais, sur un système traditionnel de résolution de conflits. Mais les anthropologues juridiques vous diront que quand on prend un système traditionnel et qu'on en fait une loi, c'est plus un système traditionnel, c'est une loi. Donc voilà, ils ont décidé de mettre en place cette loi qu'ils ont appelée Gacaca et qui prévoit, qui est une loi assez très compliquée, qui a beaucoup évolué au cours des années, des 10 ans. Et cette loi prévoit que les gens qui sont accusés de génocide au Rwanda, s'ils avouent leurs crimes et si leurs aveux sont acceptés, prévoit qu'ils aient une remise de peine substantielle et que même ils fassent une partie de leur sentence. Avec du travail d'intérêt général.
Quand vous dites accepter, que leurs aveux soient acceptés, c'est accepté par les victimes et les juges,
hein ? Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, pour remettre les choses en contexte, il faut quand même pas oublier qu'il y a eu environ 800 000 morts au Rwanda. C'est un pays de 8 ou 9 millions d'habitants aujourd'hui. Et il y a environ 1 million de personnes qui ont été jugées par les Gacaca en 5 ans. Donc, le génocide ne s'est pas déroulé de façon uniforme à travers le pays et les Gacaca ne se déroulent pas de façon uniforme à travers le pays non plus. Donc, il y a beaucoup. Les juges sont des gens comme vous et moi, normaux. Certains n'ont pas plus qu'une éducation primaire et ils ont été formés extrêmement rapidement pour juger leurs voisins, quoi, leurs concitoyens. Donc, tout ça est très inégal.
La dette publique de la République tchèque a connu une nouvelle augmentation en 2009 pour finalement atteindre un montant record de 1178 milliards de couronnes, soit environ 45 milliards d'euros. À en croire les économistes, ce n'est pas en 2010 que le pays sortira de l'endettement. Jarka Gisubelova.
C'est confirmé par le ministère des Finances, 112 000 couronnes, environ 4 300 euros, et la somme due en ce moment par chaque citoyen de République tchèque, pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants. David Marek, analyste de Patria Finance, explique d'où proviennent les dettes des Tchèques.
Les origines de la dette publique record se trouvent dans une suite de déficits budgétaires massifs. Ces dernières années, ces déficits sont encore aggravés par la crise financière et la récession économique, mais sur le long terme, ils sont le résultat d'une politique économique irresponsable.
Cette constatation est soutenue par l'économiste Jan Schweiner lors du Forum économique international Zlata Korona, couronne d'or, qui s'est tenu mardi à Prague. L'ancien candidat à la présidence de la République tchèque a illustré le caractère irresponsable de la politique économique par le fait que le budget de l'État est dans le rouge sans interruption depuis déjà 1995. Pour rembourser sa dette, l'État recourt au prêt et à l'émission de bons d'État. Or, l'émission géante de bons d'une valeur de 200 milliards de couronnes, à laquelle l'État recourut en 2009 en raison de la crise, a finalement aggravé le bilan. Ainsi, le montant de l'endettement intérieur de la Tchéquie a bondi l'année dernière à plus de 927 milliards de couronnes et sa dette extérieure a approché les 252 milliards. Chaque année, un nouveau pic d'endettement est atteint. Et 2010 ne sera pas une exception, estime David Marek.
Difficile de s'attendre cette année à ce que la tendance à la hausse de la dette publique s'arrête. Une nouvelle augmentation est prévue de l'ordre de 160 milliards de couronnes. La dette dépendra du bilan économique, mais il n'est pas exclu qu'elle puisse dépasser 40% du PIB.
Le ministre des Finances, Edouard Trianota, s'exprime quant à lui sur un ton légèrement plus optimiste en affirmant que les résultats économiques des deux premiers mois de l'année ne laissent entrevoir aucun problème. L'évolution du budget ne s'écarte pas du projet adopté qui prévoit un déficit de 162 milliards de couronnes pour cette année.
Alain Perrobe, directeur de recherche au CNRS en France, a présenté lundi à Prague, au CEFRES, le Conseil européen de la recherche dont il est membre. Ce nouvel organe, institué en février 2007, est chargé de coordonner les efforts de la recherche entre les États membres et il propose de nouvelles possibilités de financement dans le domaine des sciences humaines et sociales.
La situation des humanités et des sciences sociales dans l'espace européen de la recherche s'est considérablement améliorée depuis un certain nombre d'années. L'exemple typique de cette amélioration, c'est évidemment le Conseil européen de la recherche, qui sur un budget de 7,5 milliards d'euros dans le cadre du 7e programme cadre européen, a réservé 15% de son budget pour financer les projets dans le domaine des sciences humaines et sociales, ce qui est une avancée considérable par rapport aux pourcentages qui sont consacrés à la recherche en sciences humaines et sociales dans les agences nationales de recherche. Par exemple, la France consacre pas plus de 6 à 7% du budget total de la recherche pour les sciences humaines et sociales.
Et est-ce que la création de ce Centre européen pour la recherche favorise la coopération entre les chercheurs des différents pays membres de ce centre ?
Pour, au Conseil européen de la recherche, comme tout est vraiment ouvert et qu'il n'y a aucune contrainte, un projet de recherche par une équipe nationale est tout à fait éligible. Cela dit, quand on regarde, après 4 appels d'offres qui ont déjà été lancés, les résultats des projets qui ont été financés et des projets qui ont été déposés, on se rend compte que souvent, les équipes constituées qui présentent un projet sont des équipes qui appartiennent à des pays européens différents. Pourquoi ? Parce que sur des grands projets qui sont financés à hauteur de 2 à 3 millions d'euros, le porteur de projet a besoin d'une expertise qu'il a, par exemple, s'il est français, qu'il n'arrive pas à trouver en France, il va la chercher en Allemagne, en République tchèque. Bon, la recherche, elle est internationale maintenant depuis longtemps. Bon, les chercheurs européens circulent, se rencontrent dans des colloques et se voient beaucoup plus qu'avant. Ça s'est complètement ouvert au niveau européen et on va chercher l'expert du domaine qui n'est pas dans son propre pays mais qui est dans un autre pays.
Alors, vous êtes venu aujourd'hui à Prague présenter donc ces centres européens de la recherche, ces institutions communes européennes pour la recherche. Quelle est la place de la République tchèque dans la recherche européenne ?
Alors pour l'instant, dans le domaine qui est le mien, le domaine des sciences humaines et sociales, il y a eu peu de projets qui ont été financés. Sur 4 appels d'offres, il y a dû y en avoir qu'un ou deux. Cela dit, s'il y a eu peu de projets financés, c'est aussi qu'il y a eu très peu, par rapport à d'autres pays, de projets déposés. Alors, surtout quand on compare aux grands pays comme la Grande-Bretagne, la France qui arrive en deuxième position, l'Allemagne qui est troisième. Mais comme l'expliquait mon collègue tchèque, qui est membre avec moi du Conseil scientifique du Conseil européen de la recherche, c'est que les chercheurs tchèques sont timides et n'osent pas présenter des projets en se disant que c'est pas pour eux, ce qui est pas vrai. Plus il y aura de projets déposés par les chercheurs et enseignants chercheurs tchèques, plus il y aura de projets qui ont des chances d'être retenus pour financement.
Voilà, c'était les faits et événements de ce mercredi 17 mars présentés par Anne Kerveluire. Tout de suite, on retrouve notre rubrique d'histoire avec Arka Gisubelova.
Chapitre de l'histoire tchèque. Arka Gisubelova.
La Russie, la France, l'Égypte, la Chine, le Canada, le Japon. Dans tous ces pays et d'autres encore sont inhumés les soldats tchécoslovaques qui ne sont jamais revenus des deux guerres mondiales. Un nouveau site internet du ministère de la Défense, rendu accessible au public ces jours-ci, permet de rechercher des informations sur les soldats tchécoslovaques tués, d'identifier les lieux de leur dernier repos et de se renseigner sur les combats au cours desquels ils ont perdu la vie. « 18
274 soldats tchécoslovaques sont tombés sur les champs de bataille de deux guerres mondiales. Leurs tombes se trouvent disséminées dans 28 pays du monde, leur plus grand nombre ayant été répertoriés en Slovaquie, en Italie, en France, en Pologne, en Grande-Bretagne, en Russie, en Ukraine. On écoute Imrich Vetrak, chef du département chargé de l'identification et de la recherche des tombes de soldats à l'étranger.
En ce qui concerne les tombes de la Première Guerre mondiale, elles ont été préservées notamment en Italie, en France et en Pologne. En revanche, elles ont aujourd'hui pratiquement disparu en Russie et la situation est identique en Ukraine. Pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, les tombes tchécoslovaques ont été identifiées le long de l'avancement de nos armées sur le front russe. Les tombes des pilotes tchécoslovaques se trouvent en Grande-Bretagne, à Brookwood par exemple, et aussi en France. De très nombreuses tombes marquent le champ de bataille de Dukla en Slovaquie, près de la frontière polonaise. Les tombes de soldats tchécoslovaques couvrent pratiquement tout l'hémisphère nord, du Japon jusqu'au Canada.
Le principal débat mené autour des tombes tchécoslovaques en Russie, où seuls trois lieux du dernier repos de légionnaires tchécoslovaques de la Grande Guerre sont connus aujourd'hui. Des centaines de tombes tchécoslovaques s'étendant sur un immense territoire entre la Volga et l'océan Pacifique n'ont pas survécu au régime communiste soviétique, souligne Imrich Vetrak.
La quasi-totalité des tombes de la Première Guerre mondiale en Russie a été anéantie. À leur emplacement se trouvent aujourd'hui des usines et des quartiers d'habitation. Les rares tombes épargnées sont celles des cimetières. Le cas le plus connu est celui de la ville de Vladivostok, où les tombes des légionnaires tchécoslovaques de la Première Guerre mondiale ont été préservées et restaurées.
Dans d'autres lieux du dernier repos en Russie, comme celui près du lac Baïkal, une cinquantaine de légionnaires tchécoslovaques étaient enterrés, il ne subsiste aujourd'hui que quelques fragments de pierres tombales sur un terrain embroussaillé. Le ministère de la Défense projette de reconstituer une quarantaine de tombes tchécoslovaques en Russie. Parallèlement à cela, il va continuer à compléter son site internet, observe le chef du département chargé du projet, Imrich Vetrak.
Le projet d'identification des tombes à l'étranger est mené au ministère de la Défense depuis 2007. Les résultats rendus publics sur notre site internet ne représentent qu'une partie de la base des données réunies. La partie destinée au grand public sera complétée de photos historiques et de contacts auxquels le public pourra envoyer ses remarques. De nouveaux témoignages recueillis seront publiés sur le site. De cette manière, tout le monde pourra participer à ce projet qui sera en même temps placé sous un contrôle permanent du public.
D'ores et déjà, le site est complété chaque semaine avec des données inédites, parfois bien surprenantes. Ainsi, parmi les Tchécoslovaques ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale en Libye, un volontaire avait moins de 18 ans au moment où il a été tué par une mine lors du siège de Tobrouk. Avec 15 autres Tchécoslovaques, il est inhumé au cimetière militaire de cette ville. Autre surprise, la découverte des tombes de 21 légionnaires tchécoslovaques à Harbin, ville de province dans le nord-est de la Chine. L'explication est la suivante. La Russie tsariste a loué pour 99 ans à la Chine une partie du territoire traversé par le Transsibérien, la fameuse voie ferrée reliant sur plus de 9000 km Moscou à Vladivostok et par lequel les légionnaires tchécoslovaques se retiraient devant l'offensive de troupes bolcheviques. Sur les 18 274 soldats tchécoslovaques tombés lors des deux guerres mondiales, on ignore toujours le nom et les circonstances de la mort de 13 544 d'entre eux. Les chercheurs espèrent que les numéros anonymes répertoriés dans le fichier du ministère de la Défense sont un jour identifiés, grâce également au nouveau site Internet et au concours du public. Ils espèrent, entre autres, pouvoir enfin retrouver le tombeau de František Gellner, poète anarchiste porté disparu sur le front de Galicie, région historique sur le territoire de l'actuelle Ukraine. Pour en savoir plus sur les tombes des soldats tchécoslovaques à l'étranger, vous pouvez consulter le site www.valetsnehroby.army.cz.
Voilà, c'est la fin de ce programme quotidien d'actualité tchèque. Retrouvez toutes nos émissions sur le www.radio.cz et on se retrouve demain, même heure, même fréquence, Zatim Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.